il aurait dû nous rejoindre à 7h30. J'espère qu'il va arriver d'ici peu. Pardon ?
Si, si, je suis là.
Ah, oui, c'est vrai. Bonjour Simon.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais.
Alors, il paraît que tu vas nous parler d'un personnage qui fait partie de ce fameux club des 27. Certains peut-être connaissent le club des 27, ça vous parle ? Alors, vous pouvez citer qui dans le club des 27 ? Ah oui, c'est vrai, il y avait Amy, la dernière rentrée au club. Janis Joplin. Jim Morrison, oui. Il y avait Kurt Cobain aussi.
Et ben oui.
Et on n'oublie pas Jimi Hendrix, évidemment, qui sera à l'honneur donc, et bien d'ici quelques instants avec toi, Simon.
Oui.
Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une forme de thérapie que tu vas nous proposer.
C'est très vrai ce que tu dis. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas là, je suis caché derrière un rideau. Alors, ce n'est pas parce que je suis très timide, c'est parce que j'ai besoin de beaucoup de lumière, parce que je suis avec un ordi, je jongle, et on s'est dit que ce serait plus du tout dans le noir. Voilà, je suis caché derrière. Et j'aimerais un peu vous présenter ma recherche, d'où ça vient, et puis éventuellement répondre à vos questions. Alors, il y a un blanc, c'est parce que je suppose que dans ta tête, je commençais, c'est ça ?
Simon, tu lis dans ma tête.
Très bien. Alors, deux petites précisions. Vous allez entendre ma voix qui pose des questions. C'est parce que j'ai pas de notes. Donc, pour me souvenir de ce que je dois dire, je me suis enregistré en train de me poser la question qui correspond à ce que je dois dire. Ça va être déjà bizarre. Et la deuxième chose, je voulais m'accompagner à la guitare pour cette conférence. Et puis, j'ai rapidement réalisé que jouer du Jimi Hendrix en essayant de réfléchir à ce que je dois dire juste après, ça demande quelque chose que je n'ai pas, le talent. Voilà. Donc, vous allez entendre de la guitare, mais je me suis pré-enregistré. Voilà. Donc, juste une petite précision. Et sur ce, c'est...
Je comprends pas tout.
Pas du tout parti. C'est parti. Alors, je vais commencer déjà par vous raconter une petite histoire. En août 2022, je suis à Seattle et je suis au Lehigh Park, qui est un parc où je sais que Jimi Hendrix allait jouer quand il était petit. Je suis devant le lac Washington, je suis avec ma compagne, et dans le lointain, je vois le mont Rainier, qui est le volcan qu'on voit depuis Seattle. Et à ce moment-là, il m'arrive quelque chose qui n'est pas très courant, je pense, pour la plupart des chercheurs. C'est j'ai tout à coup la réalisation de l'enchaînement assez improbable de hasard qui fait que je me trouve à l'autre bout du monde parce que 70-80 ans avant, un adolescent noir a pris une guitare entre ses mains et a changé le cours de l'histoire de la musique.
D'accord, mais du coup, l'idée t'est venue comment ?
C'était super bien comme question. Alors, l'idée, elle m'est venue en fait 20 ans auparavant. Je vous raconte mes vacances, j'étais au Pays Basque, dans un camping, et j'avais amené avec moi un livre qui s'appelle Mozart, sociologie d'un génie, et écrit par Norbert Elias, qui est un célèbre sociologue allemand. Et donc là, je revois parfaitement la scène, je suis dans le Pays Basque, au milieu des montagnes, je suis adossé à mon sac à dos, je suis en train de lire le livre, et j'en suis à la moitié, quand tout à coup je me dis, mais en fait, tout ce qu'il y a là-dedans, ce serait complètement applicable à Jimi Hendrix.
D'accord, mais du coup, c'est quoi le lien entre Jimi Hendrix et Mozart ?
Je suis en train de réaliser que j'aurais pu poser les questions sans les enregistrer avant, ça aurait été tout aussi naturel. Donc, avant de parler du lien entre Jimi Hendrix et Mozart, je pense qu'il est utile de vous préciser un petit peu de quoi parle le livre de Norbert Elias. En fait, c'est un livre qui est assez original à l'époque et assez novateur parce que Norbert Elias... Il utilise des outils de sociologie, donc des outils qui sont d'habitude plutôt utilisés pour essayer de comprendre le fonctionnement des groupes humains. Et là, il les applique à un individu pour essayer de comprendre son parcours. Et en faisant ça, il pose une question qui est, est-ce qu'on peut expliquer le génie de Mozart grâce aux outils de la sociologie ?
Mais un génie, c'est un génie, en fait. Il n'y a pas grand-chose à expliquer.
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Parce que le concept de génie, en fait, c'est un concept assez récent, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ça apparaît grosso modo au cours du 19e siècle. Ça s'établit vraiment sous l'influence des romantiques allemands. Et quand on parle de génie, on a voilà, l'image de quelqu'un qui a un don inné, quasiment divin. Et cette image, en fait, elle colle assez bien à l'idéal romantique qui est plus ou moins, qui coïncide plus ou moins avec l'apparition vraiment du concept d'individu. C'est-à-dire se considérer comme individu en dehors même de l'existence d'un groupe. Alors pour nous, en 2025, c'est quelque chose qui paraît très banal, mais au 19e siècle, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On se conçoit en tant qu'individu au milieu d'une communauté, la plupart du temps. Et le concept de génie, ben justement, il permet de sortir un petit peu de ça. Mais Norbert Elias, lui, il n'est pas très convaincu par cette conception du génie, et il décide avec Mozart de montrer que ben, le lieu, l'époque, les interactions entre Mozart et les gens qu'il côtoie, en gros, bah, le contexte dans lequel il grandit, participe à l'émergence de son génie.
Je ne comprends pas trop en quoi l'environnement de Mozart peut avoir un impact sur sa créativité artistique.
Bah, pour ça, en fait, il faut comprendre que l'Allemagne, à l'époque, c'est un pays qui est extrêmement divisé. C'est-à-dire qu'en France, au même moment, vous avez... un État qui est relativement centralisé, vous avez une cour royale, voilà, un roi qui a sa cour principale et tout gravite un petit peu autour de ça. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas de pouvoir central, tout le pays est divisé entre des cours princières qui sont plus ou moins en compétition les unes avec les autres. Alors elles ne se font pas la guerre, hein, mais les différents aristocrates, en gros, essaient de montrer leur pouvoir, d'établir un peu le fait qu'ils sont importants en étalant un peu leur richesse. Et une façon de faire ça, entre autres choses, c'est d'avoir son propre orchestre et d'avoir son propre compositeur attitré. Bach, par exemple, c'est vraiment dans ce contexte-là. On a un exemple de Bach, d'ailleurs, tout de suite maintenant. Bach, c'est vraiment dans ce contexte-là, par exemple, que toute sa carrière va se dérouler. Donc, Mozart, il grandit voilà, dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de compositeurs. Si vous regardez la France à cette époque-là, vous cherchez des musiciens et des pièces qui sont restées connues, il n'y en a pas tant que ça au final. Alors que si vous regardez du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, là vous allez avoir pléthore de compositeurs et d'œuvres. Et dans ce contexte, Norbert Elias, en gros, il arrive à une conclusion qui est que Mozart subit un peu une double déception. Premièrement, il souffre d'un manque de reconnaissance de la part des élites. C'est-à-dire que Mozart, c'est une personne extrêmement moderne qui est sûre de sa valeur. Et ce qui, encore une fois, pour nous aujourd'hui, bon, paraît assez banal, mais pour l'époque, est quelque chose d'assez intéressant. Et Mozart, il souffre du fait qu'aux yeux de l'aristocratie, en fait, il n'est qu'un domestique. Parce que le compositeur attitré d'une cour, en fait, ça pourrait être le cuisinier, ça pourrait être quelqu'un qui nettoie. C'est juste quelqu'un qui est aux ordres de son patron. Donc, Mozart souffre un peu de ce manque de reconnaissance. Et il va souffrir également d'un échec cuisant qui est qu'il va essayer de créer un métier. C'est-à-dire qu'il va essayer de devenir un des premiers compositeurs à ne pas dépendre d'une cour et à vendre ses services aux plus offrants. Et son pari, c'est de dire la bourgeoisie allemande commence à vraiment devenir importante, je vais me mettre à mon compte et en gros, bah les bourgeois me commanderont des pièces, des opéras, etc., etc. Et c'est comme ça que je vais gagner ma vie. Et le pari, il est risqué, il est osé, il est intéressant, mais malheureusement, Mozart arrive un tout petit peu trop tôt et il échoue là où Beethoven réussira quelques années plus tard, en fait, seulement.
Alors d'accord, je comprends bien pour Mozart, mais le rapport avec Jimi Hendrix, je le vois toujours pas.
Je comprends tout à fait. Alors, ce sont des personnes complètement différentes, bien entendu, qu'on parle du lieu où ils grandissent, de leur milieu social, de l'époque. Il n'y a rien de commun entre Mozart et Hendrix. Mozart, c'est un enfant prodige qui est promené à travers toute l'Europe dès son plus jeune âge par son père, qui est lui-même musicien et qui lui inflige vraiment un entraînement drastique. Donc, il grandit là-dedans, il baigne là-dedans dès son plus jeune âge. Jimi Hendrix, lui, c'est quelqu'un qui naît dans un milieu très pauvre, qui découvre, qui se met à la musique seulement à l'adolescence, et qui n'a pas du tout de musicien dans sa famille. Donc, ce sont des personnes complètement différentes, mais moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est le fait que la méthode que Norbert Elias applique à Mozart, je me dis qu'elle est applicable à Jimi Hendrix. Est-ce qu'on peut comprendre l'émergence du génie Est-ce qu'on peut comprendre l'émergence du génie de Jimi Hendrix en observant son parcours de la même manière, que Norbert Elias a étudié l'émergence du génie de Mozart?
Et d'ailleurs, question idiote, il vient d'où Jimi Hendrix?
Il n'y a jamais de question idiote. Et en ce qui concerne Hendrix, objectivement, elle est vraiment pas bête. Parce que quand vous pensez aux artistes africains-américains des années 60, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous voyez quelqu'un qui vient un petit peu du sud, peut-être de zone rurale, ou alors qui vient de Chicago, de ce genre d'endroits qui sont très très identifiables. Mais en fait, Jimi Hendrix, lui, est né à Seattle, et Seattle, c'est quand même une ville qui est assez particulière. Si vous ne voyez pas trop où c'est complètement au nord-ouest des États-Unis, donc c'est à la frontière avec le Canada. C'est une ville qui est entièrement tournée vers le Pacifique, vers les échanges avec l'Asie, le Canada également, et qui va passer à côté d'une grande partie de l'histoire un petit peu ancienne des États-Unis. Par exemple, Seattle, la guerre de sécession, ben, y a rien. Il se passe strictement rien, il n'y a pas d'implication du tout dans cet enjeu majeur de l'histoire du pays. Pareil pour ce qui concerne la ségrégation telle que vous l'imaginez certainement dans le sud rural des États-Unis avec les lois Jim Crow. C'est quelque chose que Seattle ne va pas vraiment connaître. Et Seattle va également passer à côté des grandes vagues migratoires des années 20 et 30 qui voit une grande partie de la population africaine-américaine du Sud émigrer vers les villes industrielles du Nord.
Ok, mais en quoi Seattle est particulière du coup ?
Alors, Seattle, c'est particulier parce que quand Jimi Hendrix y naît en 1942, la plus grosse minorité de la ville, c'est la population asiatique. Et ça en fait la seule grande ville américaine dans cette situation. Il y a très peu d'Africains américains. Et de ce fait, depuis le début du XXe siècle, toutes les discriminations raciales habituelles qu'on voit dans le reste du pays, en fait, elles sont plutôt dirigées contre les populations asiatiques. Ce qui fait que les populations noires, elles se font discrètes, hein, bien entendu, et du coup, elles jouissent d'une relative tranquillité par rapport à ce que leurs congénères dans le reste du pays peuvent subir. Mais tout ça va changer avec la Seconde Guerre mondiale, quand l'effort de guerre, et notamment l'effort industriel, va créer une demande d'emploi très très forte pour les chantiers navals de la ville, ainsi que pour l'industrie aéronautique, représentée notamment par Boeing. Il va y avoir énormément de gens, la population de la ville s'accroît très très rapidement pendant ces années-là, et il y a parmi tous ces gens qui arrivent à Seattle, beaucoup de personnes africaines-américaines qui viennent pour bénéficier de métiers auxquels elles n'auraient pas accès dans le reste du pays. Et donc la population noire grandit très rapidement et en plus, elle est relativement aisée par rapport à ce qui va être possible dans le reste des États-Unis de l'époque.
Mais du coup, ça veut dire que, genre, il n'y avait pas de racisme à Seattle ?
Alors si, on ne va pas se mentir, hein, vous inquiétez pas, voilà, le racisme aux États-Unis, c'est, enfin pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais c'est réparti, il n'y a pas de souci, mais il s'exprime vraiment très différemment de plein d'autres endroits des États-Unis. En fait, il s'exprime principalement par une discrimination au logement, ce qui fait que la vraiment et grande majorité des gens qui arrivent de la ville dans la ville à cette époque et qui sont noirs ou alors qui sont d'origine asiatique ou qui arrivent d'Europe, qui sont fraîchement débarqués du bateau en provenance d'Europe, les populations juives également, vont se retrouver dans un seul quartier qui s'appelle le Central District où Jimi Hendrix va passer toute son enfance.
Donc on peut parler d'une forme de ségrégation au final ?
Eh bien, oui et non. Alors, il y a eu une discrimination, il y a une ségrégation du point de vue du logement, même si on peut dire que c'est un peu une ségrégation de facto. Il y a une ségrégation du point de vue de l'emploi, même si elle est objectivement beaucoup moins forte qu'elle ne l'est dans le reste du pays. Comme je le disais précédemment, il y a des emplois d'ouvriers spécialisés, par exemple, qui sont ouverts aux personnes africaines-américaines, là où ça n'aurait pas été possible dans le reste du pays. Mais surtout, Ce qui m'intéresse par rapport à Seattle et ce qui en fait vraiment un cas assez exceptionnel dans le paysage américain de l'époque, c'est qu'il n'y a pas de ségrégation à l'école. En fait, pendant une période très courte, correspondant au milieu des années 40 jusqu'à la fin des années 50, pile poil à l'époque où Jimi Hendrix va à l'école, puis au collège, puis au lycée, il y a dans le quartier du Central District dont je parlais, et dans ces écoles, un équilibre qui fait qu'environ un tiers des élèves sont blancs, un tiers sont noirs et un tiers sont d'origine asiatique. Et ça, si vous connaissez un petit peu l'histoire américaine, je vous invite à repenser à ce que vous connaissez des années 50 aux États-Unis. Les années 50 aux États-Unis, c'est par exemple Little Rock, dans l'Arkansas, où les troupes américaines sont obligées d'escorter les élèves noirs qui vont être les premiers à intégrer les écoles qui étaient exclusivement blanches auparavant, sous les huées, sous les coups, sous les menaces des populations blanches de l'époque. Donc dans une grande majorité du pays, vous avez une déségrégation extrêmement compliquée, extrêmement violente, conflictuelle d'un système scolaire qui était complètement, qui séparait complètement les populations blanches et les populations noires, alors qu'au même moment, à Seattle, bah, des enfants grandissent ensemble sans se poser de questions. Ça, si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez trouver des photos, par exemple, de classes, des classes de Jimi Hendrix, et vous voyez effectivement cette répartition. Et ça donne, une coloration très particulière à l'enfance de Jimi Hendrix, et qu'on retrouve dans les témoignages de ses amis d'enfance qui expliquent effectivement qu'ils sont quasiment les seuls à cette époque à grandir aux États-Unis sans se poser la question de « Ah oui, tiens, j'ai un copain qui n'a pas la même couleur de peau que moi. »
Ok, d'accord, je veux bien. Hendrix va dans des écoles qui ne sont pas ségrégationnées, mais en quoi ça fait de lui un génie ?
Alors, ça ne suffit pas, bien sûr. Hein. Mon travail, il ne se base pas exclusivement là-dessus. Par contre, vu la façon dont je procède, vu un peu les théories que je vous expliquais de Norbert Elias auparavant, ça permet quand même de comprendre une situation. La situation de Jimi Hendrix, qui est quasiment unique pour un artiste noir dans les années 60. Hendrix, de par son enfance, de par son parcours dans ce quartier si particulier et dans ces écoles quasiment uniques dans tout le pays, a une capacité à négocier les relations interraciales qui est d'une simplicité et d'un naturel quasiment impensable pour un autre artiste noir de sa génération qui aurait grandi ailleurs. C'est-à-dire que pour tout artiste noir dans les années 60 qui doit engager une conversation avec une personne blanche, négocier un contrat avec une personne blanche, travailler avec une personne blanche, il y a une méfiance naturelle et qui est objectivement tout à fait compréhensible que Jimi Hendrix n'a pas. Et une des choses sur lesquelles je travaille, c'est que cette simplicité dans les rapports, en fait, elle va permettre à Jimi Hendrix de créer une sorte de malentendu. Le malentendu, c'est que les populations blanches qui vont constituer l'immense majorité du public à ces concerts va avoir l'illusion qu'elle a été vers un artiste noir. Alors qu'en réalité, c'est Jimi Hendrix, de par son enfance, de par sa capacité à ne pas être obnubilé par les questions interraciales, qui va apporter la culture noire à un public blanc.
Ah oui, du coup, il ne s'agit pas d'expliquer le génie de Jimi Hendrix en tant que tel.
Voilà, c'est ça. Moi, mon travail, c'est pas de vous expliquer pour fabriquer un génie, faut ça. Et puis la recette, elle marche toujours. Hein. C'est pas du tout ça. Surtout que je voudrais pas donner l'impression d'enlever du mérite à des personnes comme Jimi Hendrix ou Mozart du point de vue d'Elias. Hein. Non. Moi, ce qui m'intéresse, en gros, ce sont les facteurs qui permettent l'émergence du génie. Et en gros, si Hendrix n'avait pas bénéficié de circonstances très particulières, qu'on parle du lieu de l'époque, mais aussi des avancées technologiques qui arrivent au même moment, de la modification de la consommation culturelle des gens à l'époque, de la modification de la consommation des loisirs, ben, il aurait été difficile pour Hendrix d'exploiter et de cultiver ses compétences au degré qu'il l'a fait. Et je trouve que réfléchir comme ça, ça permet deux choses. Ça permet déjà de réaliser qu'en fait, on est sûrement passé à côté, entre guillemets, de plein de génies. Parce que pour qu'un talent puisse être cultivé, pour qu'un talent puisse s'exprimer, il faut qu'il ait des conditions bénéfiques, il faut qu'il y ait un ensemble, un hasard de circonstances qui se crée. Et ça, c'est assez rare, en fait. Et l'autre chose, c'est que, en fait, en prenant la lorgnette de Jimi Hendrix et en appliquant un peu les préceptes que Norbert Elias applique en étudiant Mozart, ça permet de créer une autre porte d'entrée sur la société états-unienne de l'époque et de réfléchir les grands problèmes sociaux de l'époque à partir d'un individu et non pas de réfléchir dans le sens inverse.
Et à part cette notion de génie, tu t'intéresses à d'autres aspects de Jimi Hendrix ?
Alors oui, un autre aspect qui m'intéresse, c'est la notion de mythe. En gros, comment Jimi Hendrix devient avec le temps plus une figure représentative des années 60 qu'un musicien reconnu pour sa musique ? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'immense... Alors vous êtes venu spécialement pour écouter quelqu'un parler d'Hendrix, donc j'imagine que, voilà, peut-être que vous connaissez sa musique, mais par contre, vous pouvez en parler avec vos amis, votre famille, demain. Je suis sûr que la plupart des gens à qui vous pouvez en parler, ils connaissent Jimi Hendrix. C'est-à-dire qu'ils vont connaître une image, ils vont connaître, ça va leur évoquer l'image, voilà, d'un guitariste africain-américain, plutôt mince et avec une grande coupe afro. Mais par contre, ils vont pas nécessairement connaître sa musique. Et ça, c'est un aspect que je trouve hyper intéressant, c'est-à-dire essayer de comprendre les mécanismes qui font qu'une personne qui a réellement existé, à mesure que le temps passe, elle se désincarne pour finir par devenir une sorte d'essence qui peut exister en dehors de la personne elle-même. Et du coup, pour essayer de comprendre ça, ben, je travaille sur ce que j'appelle les passeurs de mémoire, c'est-à-dire les gens qui vont perpétuer la musique d'Hendrix d'une façon ou d'une autre, les youtubeurs par exemple, qui vont faire des leçons pour expliquer comment jouer Jimi Hendrix, des films qui vont utiliser sa musique, et puis aussi ben, tout simplement des gens comme moi, parce que ce soir vous êtes venu écouter quelque chose sur Jimi Hendrix, peut-être que vous n'en aviez pas écouté depuis longtemps, peut-être que vous ne connaissiez pas trop, peut-être que demain vous allez écouter Jimi Hendrix et de ce fait, en fait, moi-même, je suis quelque part mon propre objet d'étude. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de mon travail sur Hendrix. Et pour finir, pour conclure, si vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'il est plutôt sociologue, est-ce qu'il est plutôt historien, est-ce qu'il est psychologue ou je ne sais pas, ou archéologiste, en fait, je suis ce qu'on appelle un civilisationniste, qui est une catégorie un petit peu à part, qui a pas, je pense, encore toute sa place en France, qui est beaucoup plus répandue dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. Et en gros, le principe de la civilisation et du civilisationniste, c'est de dire que pour essayer de comprendre un problème, si on a besoin de faire appel à des outils d'un historien, et puis à des outils d'un sociologue, et puis à des outils d'un économiste, on va utiliser tous ces outils et on va essayer de rendre la chose cohérente. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.
Je peux peut-être sortir quand même.
Ah, tu peux, écoute, tu restes dans le noir, tu resteras mystérieux.
Ça finit par faire un peu bizarre quand même.
Ouais, c'est vrai.
Ah, oui. Mais il y a du monde en plus.
Tu te sentais un peu isolé. Est-ce que vous avez des questions à poser ?
C'était bien la peine.
25 minutes sur la musique, sur l'histoire.
Mais je pense qu'ils se sont tous endormis. Oui, pardon. Ouh, une question.
C'est qu'on voit pas trop dans le noir, mais vas-y.
Et Simon, comment tu t'es mis à Jimi Hendrix ? Qu'est-ce qui t'a tout d'un coup ? Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton histoire ?
C'est une très bonne question. Alors, il y a une. Ça m'embête que tu poses cette question parce que j'ai envie d'être honnête. Il y a deux versions. Il y a une version qui est pas pour les enfants, donc je ne vais pas la dire. Il y a une version plus soft, on va dire. J'ai commencé la musique en étant ado avec un très bon copain qui était fan d'Hendrix et qui m'a initié à sa musique. Et depuis, je n'ai jamais décroché. C'est beaucoup mieux comme réponse.
Oui, tu es toi-même guitariste.
Je suis moi-même guitariste. Les piètres morceaux, les morceaux piètrement exécutés que vous avez entendus, peut-être dans le fond, c'est moi qui les ai enregistrés ce matin en réalisant que je n'arriverais pas à les faire en direct.
Alors après, quand on est guitariste, on souhaite apprendre des morceaux. C'est souvent Led Zeppelin. Jimi Hendrix, c'est plus rare tout de même.
Non, il ne faut pas dire ça. Si, clairement.
De par la difficulté, de par le fait qu'il soit gaucher déjà.
Ce voyage à Seattle, je ne l'ai pas fait juste pour aller regarder les montagnes. J'ai été interviewer des gens et notamment le conservateur d'un musée à Seattle qui s'appelle le MoPop. Qui est un musée des cultures populaires et qui initialement était vraiment un musée de Jimi Hendrix. Et en fait, en discutant avec lui, son constat, c'était de dire objectivement, Seattle, maintenant, c'est pas connu pour Jimi Hendrix. En fait, c'est connu pour Nirvana, quoi, principalement. Ouais. Et de son point de vue, il disait, s'il y en a un des deux qui doit disparaître, ce sera Jimi Hendrix. Par contre, Nirvana, je pense que vraiment, ça a une influence telle que ça survivra à une explosion nucléaire, quoi. Et objectivement, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que encore une fois, c'est ce que je vous disais à la fin, Jimi Hendrix, je pense que c'est une figure qui est extrêmement facile pour convoquer une époque. C'est-à-dire que voilà, vous avez regardé Forrest Gump, par exemple. Forrest Gump, vous allez voir le début de All Along the Watchtower, par exemple. Immédiatement, vous êtes plongé dans les années 60. Voilà. Mais par contre, la plupart des gens, on leur dit... cite-moi un morceau de Jimi Hendrix, y a peu de gens qui en connaissent, en fait. Il y a peut-être, il va y avoir Hey Joe éventuellement.
Oui, voilà,
mais c'est une reprise, c'est même pas une chanson à lui. Donc c'est un artiste qui a, sans lequel la musique qu'on écoute aujourd'hui, elle n'existerait pas. Pour les gens qui sont guitaristes dans la salle, c'est une influence absolument extraordinaire. Jimi Hendrix, un des premiers à avoir utilisé la guitare électrique, non pas pour exprimer un son violent, mais au contraire pour exprimer de la douceur. C'est le premier grand artiste à avoir fait des ballades avec une guitare électrique, en fait. Vraiment des choses très douces. Donc ça a une influence énorme à tout point de vue. Mais par contre, effectivement, je pense que maintenant, c'est sa figure en tant que mythe qui va persister, qui va subsister. Il y a peut-être des gens qui ont des t-shirts Jimi Hendrix dans la salle.
C'est possible.
Mais sa musique, par contre, effectivement, c'est au fur et à mesure que le temps passe, en train de devenir plutôt un.
D'accord, donc
un souvenir.
Ça va devenir une icône visuelle et plus musicale ni artistique. Après, j'ai une dernière question vite fait en 30 secondes. Je me suis toujours posé la question de ces artistes, musiciens mythiques de notre du XXe siècle, ouais. Des choses très contemporaines. Est-ce que on aura la chance, je pense notamment peut-être à Elvis Presley, d'être qui soit comparé à Mozart d'ici 200 ans? Est-ce qu'il restera quelque chose de cette époque-là dans 200 ans?
C'est un vaste débat.
Très bien.
C'est une bonne question parce que ça pose la question de la mémoire. Mozart, c'est un super exemple parce que c'est un des artistes les plus emblématiques de son époque, alors que de son vivant, c'est pas du tout un des artistes les plus connus. Ce qui fait que Mozart, il est extrêmement connu aujourd'hui. Et je pense que l'exemple de Bach, il est encore plus extraordinaire. Bach, s'il y a des gens qui sont un peu mélomanes ici, si vous êtes un peu snob comme moi, vous dites, voilà, c'est qui le plus grand compositeur? Bon, pour moi, c'est Bach. Ça ne se pose même pas comme question. Par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que vous auriez posé la question dans les années 20, quasiment plus personne ne connaissait Bach. Il était complètement passé aux oubliettes. Il y a eu un regain d'intérêt pour lui à partir des années, on va dire, 40. Il y a eu une explosion absolument phénoménale, à mon avis, grâce à Glenn Gould, qui est un de ses interprètes les plus connus et qui l'a remis sur le devant de la scène. Mais c'est pour ça que je pense que c'est compliqué de donner une
vraie sorte de transmission. Ça, quoi. Si la musique et l'histoire de Jimi Hendrix est transmise pendant 200 ans, il sera toujours parmi nous. Quoi.
Absolument. La famille d'Hendrix subit beaucoup de foudre en ce moment parce que tous les deux ans, il y a un nouvel album qui sort. Bon, il est mort à 27 ans, il a enregistré ce qu'il a pu enregistrer. Faut arrêter de croire qu'il y a des nouveaux morceaux qui vont arriver. Mais tous les deux ans, il y a un disque qui sort. Il y a plein de gens qui disent « Oh là là, c'est vraiment exploiter le truc, c'est se faire de l'argent sur le dos d'un mort ». Et en même temps, sa famille n'était pas là pour tous les deux ans créer une actualité par rapport à Hendrix, est-ce qu'on en parlerait encore ?
Eh bien, merci.
Très beau mot de la fin.
Non, c'était parfait. Très belle conclusion.
Merci beaucoup.